en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre présentation si aimable. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux et très honoré que, une autre fois, j'ai le privilège et le bonheur de pouvoir développer devant vous quelques idées sur un sujet intéressant, mais peut-être aussi un peu problématique, la relation entre les sciences morales et politiques et les Geisteswissenschaften en Allemagne. C'est pourquoi aussi je me suis permis de légèrement changer mon sujet en posant cette question qui va nous mettre devant un tissu épais de convergence et de divergence, c'est-à-dire s'il y a un équivalent allemand aux sciences morales et politiques. Je suivrai une ligne historique, un tissu épais de convergence et de divergence dont je n'essayerai de détacher ici que quelques fils. Laissez-moi commencer avec la fondation de l'Académie de Prusse en 1700, inspirée et promue par Gottfried Wilhelm Leibniz, grand savant universel et de renommée européenne, dont Voltaire se moquait un peu trop à la légère. Leibniz, pendant un séjour de 4 ans à Paris, avait bien connu les 4 académies parisiennes et surtout l'Académie des sciences, dont il devint membre d'honneur et où il travailla à développer un nouveau système binaire des chiffres adapté à la construction d'une machine à calculer. Son projet de fonder une nouvelle académie à Berlin, capitale de la Prusse, était basée sur une innovation qui devait faire d'elle l'académie la plus moderne de son temps. En effet, contrairement aux 4 académies parisiennes qui entre elles n'avaient pratiquement pas de relation, la nouvelle académie comprenait 4 classes pour former un tout qui devait représenter une sorte d'harmonia mundi du savoir. Une classe de médecine et de physique, une classe de mathématiques, une classe d'histoire et philologie germanique et une classe de philologie ecclésiastique et orientale. Quand les 20 et 21 avril 1792, le marquis de Condorcet, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, ayant pris le parti de la Révolution dans ce célèbre rapport et projet de décret relatif à l'organisation générale de l'instruction publique présenté à l'Assemblée législative, proposa de réunir les 4 académies royales à Paris et de les transposer en classe d'une société des sciences et des arts, avait-il en mémoire l'Académie de Berlin ? La question n'est pas hors de propos, puisque de 1783 à 1786, Condorcet avait été le conseiller de Frédéric II, qui avait transformé l'Académie de Berlin en une Académie royale des sciences et belles-lettres, où la présence française, mais aussi la langue française, dominait. Ainsi, Adolphe Harnack, l'historien de l'Académie de Prusse, peut écrire « Pendant 23 ans, le vrai président de l'Académie siégea à Paris, d'abord d'Alembert, puis Condorcet. Le secrétaire de l'Académie française dirigeait en même temps l'Académie prussienne. » Point d'exclamation. Il est vrai que le projet de Condorcet ne se réalisa qu'après sa mort tragique, en 1795, avec le projet d'ONU, qui aboutit le 25 octobre à la fondation de l'Institut national des sciences et des arts, vous savez tout cela beaucoup mieux que moi, divisé en trois classes, sciences physiques et mathématiques, sciences morales et politiques, et littérature et beaux-arts. Donu par là suivait étroitement Condorcet, qui, dans son projet d'une société nationale des sciences et des arts, avait prévu quatre classes analogues aux quatre classes de l'Académie de Prusse, dont la deuxième devait déjà être une classe des sciences morales et politiques. C'est donc à Condorcet que revient la paternité du nom de sciences morales et politiques, par lequel il désigne cette seconde classe, désignation qui d'ailleurs suit aussi le modèle de Leibniz. Seulement, au moment où Condorcet voulut former un système cohérent de quatre académies séparées, il découvrit un manque essentiel pour une organisation révolutionnaire du savoir qu'il s'agissait de remplir. Sa formule « sciences morales et politiques » résume en elle une longue histoire des Lumières en France. C'est une configuration à visage double. Il n'y a pas de morale sans politique, il n'y a pas de politique sans morale. C'est l'essence de l'esprit des lois de Montesquieu, mais aussi celle de la Constitution de la République française de 1791 et de la grande devise de la Révolution « liberté, égalité, fraternité ». Mais si Condorcet, avec sa classe des sciences morales et politiques, s'éloignait fondamentalement des concepts prédominants de l'Académie de Prusse, il suivait pourtant de près la conception leibnizienne d'une unité des sciences, conception qui correspondait parfaitement à sa propre idée d'un universalisme scientifique. On serait presque tenté d'appeler Condorcet un Leibniz français. Au Leibniz français répond un Condorcet allemand dans la personne de Wilhelm von Humboldt. Condorcet avait des conceptions de réforme pour tous les domaines de la communication et de la circulation des savoirs d'une couche sociale à l'autre, de la capitale à la nation entière. Il était en effet la tête la plus brillante d'une révolution culturelle à l'intérieur de la révolution. Il est peu probable que Wilhelm von Humboldt, frère aîné d'Alexandre, mieux connu en France, ait fait la connaissance personnelle de Condorcet lors de son premier séjour à Paris dans les premiers mois de la Révolution. Quand Humboldt retourna à Paris en 1797 pour y rester avec des interruptions jusqu'en 1801, Condorcet était déjà mort. Comment donc aurait-il pu avoir connaissance de ces écrits dispersés par-ci, par-là, et souvent pas publiés du tout? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut se rappeler un personnage peu connu, Karl Friedrich Cramer, fervent partisan de la Révolution française et professeur destitué de ses fonctions à l'Université de Kiel, en raison de son parti pris pour la Révolution. En 1795, il arrive à Paris et devient un des grands médiateurs entre culture française et culture allemande. Il a la chance de pouvoir acheter une belle maison et un mécène. Le marchand hambourgeois Sieveking lui permet d'acheter une librairie et une imprimerie. C'est ce même Sieveking qui, de la veuve de Condorcet, a acheté tous les manuscrits que Cramer, grand admirateur de Condorcet, voulait publier. En effet, la première édition des œuvres complètes de Condorcet a été imprimée dans sa propre imprimerie et publiée chez son ami l'éditeur Fivek de Brunswick. Wilhelm von Humboldt non seulement fréquentait la maison de Cramer où il pouvait consulter les manuscrits de Condorcet, il accompagna même Cramer pour négocier les droits d'auteur avec Madame de Condorcet. À son retour à Berlin en 1801, Humboldt fut nommé diplomate auprès du Vatican et pendant 8 ans, il resta à Rome où il put perfectionner ses connaissances de l'Antiquité grecque et romaine. En même temps, il put laisser mûrir les idées sur la révolution culturelle de la nouvelle organisation de l'enseignement que Condorcet avait éveillée en lui. Quand, rentré à Berlin en 1808, il devint le chef de section au ministère de l'Intérieur pour le culte et l'enseignement, Kultus und Unterricht, le moment était venu pour réaliser ses projets de réforme. Il s'y mit avec un élan de révolutionnaire, saisissant la chance du moment. En effet, il ne lui restait qu'un an et demi pour accomplir une tâche qui devait profondément changer tout le système du savoir et de l'enseignement en Prusse et dans l'Allemagne entière. Humboldt développe l'essentiel de son plan de réforme des institutions prussiennes de l'enseignement et du savoir dans son plan d'école pour Königsberg et la Lituanie, Königsberg und Litauischer Schulplan de 1809, qui, sous bien des aspects, suit étroitement le plan d'organisation générale de l'enseignement public de Condorcet. Le mot d'organisation, auquel Condorcet avait donné un sens inédit, devient aussi un mot-clé chez le Humboldt réformateur de l'enseignement prussien. Humboldt et Condorcet sont des organisateurs de génie. Au centre des réflexions de Humboldt pour la réorganisation de l'enseignement se trouve une conception fondamentalement moderne de l'université qui, dans le plan de Condorcet, n'avait pas encore d'importance. La nouvelle université à fonder à Berlin et qui devra avoir un rayonnement dans l'Allemagne entière ne sera plus une institution de doctrine et d'enseignement, mais plutôt un haut lieu de recherche et de communication scientifique où la différence entre enseignants et étudiants sera réduite à un minimum. Humboldt réserve à l'université ce que l'homme ne peut trouver que par soi-même et en soi-même. Je le cite, « À cet acte de se surpasser soi-même, il faut nécessairement la liberté soutenue par la solitude. De ces deux points résulte toute l'organisation extérieure de l'université. » Fin de citation. Humboldt a réalisé cette vision de l'université discutée vivement encore aujourd'hui, de nouveau aujourd'hui, par la fondation en 1810 de l'Université de Berlin, qui restera toujours un de ses titres de gloire. Dès sa fondation, en effet, cette université a su rassembler les meilleures têtes d'Allemagne, aussi bien dans les sciences humaines que dans les sciences naturelles. Dans une deuxième prise de position sur l'organisation intérieure et extérieure des institutions supérieures de l'enseignement à Berlin de 1810, Humboldt insiste de nouveau sur liberté et solitude comme principe prévalent de l'université, mais il y précise aussi la relation entre université et académie, qu'il voit dans une compétition heureuse. Tandis que les professeurs de l'université forment un corps par l'institution même, les membres de l'académie sont, par contre, sont, selon la grande tradition de l'Europe moderne fondée par l'académie de Platon et reprise par les premiers humanistes italiens, florentins plutôt, une, je cite, « société destinée à soumettre le travail de chacun au jugement de tous ». Ainsi, l'Académie, selon Humboldt, est, je cite, « la plus haute et dernière instance de liberté et la corporation la plus indépendante de l'État ». Très belle formule, je crois, valable pour toutes les grandes académies en Europe. Le concept suprême qui guide le plan national d'éducation de Humboldt, des institutions les plus élémentaires au haut lieu de la communication savante et scientifique, est celui de Bildung, mot difficilement traduisible en français, qui évoque étymologiquement l'idée de formation de l'esprit. Tandis que pour Condorcet, le centre de ses préoccupations sont la morale et la politique dans leur correspondance et dans leur antagonisme, Humboldt élabore un concept beaucoup plus individualiste. La raison en est certainement aussi une situation politique bien différente. la France révolutionnaire dans laquelle Condorcet médite son projet de révolution culturelle est, comme le dit le premier paragraphe de la nouvelle constitution de 1791, une et indivisible. L'Allemagne de Humboldt, au contraire, est divisée et divisible. La Prusse de Humboldt, en plus, a été battue par ce même Napoléon qui a mis fin à la classe de morale et politique de l'Institut national. Il faut, dans la perspective de Humboldt, que l'Allemagne, avant de devenir une nation politique, devienne une nation culturelle qui aura pour centre la Prusse et au centre de la Prusse, Berlin, avec ses nouvelles institutions de Bildung, à la fois individuelles et nationales. Cette Bildung est pour Humboldt fondée dans un classicisme grec valable pour tous les temps et dont Goethe est l'incarnation la plus parfaite. Avec le philosophe Friedrich Hegel apparaît un nouveau concept majeur pendant plus d'un siècle et qui pendant plus d'un siècle allait orienter ou désorienter le monde intellectuel allemand, c'est celui de Geist, imparfaitement traduit par esprit. En 1807, Hegel publia Die Phänomenologie des Geistes, la phénoménologie de l'esprit, qui devait fonder tout son système philosophique. Puisque mon sujet le demande, il faut ici parler de Hegel, bien que nous ayons parmi nous, dans la personne de notre président, un éminent connaisseur de Hegel, qui certainement pourra corriger les quelques remarques que je propose un peu trop à la légère. Donc, avec toute réserve, je dis, la conception de l'esprit de l'esprit des lois de Montesquieu se distingue profondément de celle du Geist de Hegel. L'esprit des lois est un ensemble de facteurs qui le déterminent. C'est un résultat, comme Montesquieu le dit de façon explicite au petit chapitre 5 du livre 19, je le cite, « Plusieurs choses gouvernent les hommes, le climat, la religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières. Tout, il se forme un esprit général qui en résulte. » Pour Hegel, en revanche, l'esprit n'est pas résultat, mais sujet. Hegel, devant l'esprit, aura pu dire ce que, devant l'écriture, Rousseau disait dans son « De l'origine des langues », « Tout cela donne furieusement à penser ». Pour Hegel, l'esprit absolu, le Weltgeist, qui s'incorpore dans les divers Volksgeister qui l'entourent, se manifeste dans le temps, ou mieux, dans l'histoire. Il s'agit de penser l'esprit dans l'histoire, de penser l'histoire par l'esprit. L'esprit, selon Hegel, travaille dans l'histoire et par l'histoire. La phénoménologie de l'esprit travaille à rendre ce travail conscient. Mais cette conscience devient science seulement par le travail du concept, die Arbeit des Begriffs. Il faut dire que Hegel était en effet dans le sens de Rimbaud, un horrible travailleur. Il y a, entre la classe des sciences morales et politiques dans l'esprit de Condorcet et le concept de la Bildung chez Humboldt, mais aussi entre Humboldt et Hegel, un changement dans l'hierarchie des valeurs épistémologiques. Pour Condorcet, histoire et philosophie sont intégrées dans une formule qui, en principe, suit une raison historique. La morale est fondée dans les principes, mais aussi la politique. La conception de la Bildung, valeur suprême de la Weltanschauung de Humboldt, se réfère à une médiation réussie entre antiquité grecque et modernité du monde prussien. Avec Hegel, nous sommes encore une fois devant une nouvelle hiérarchie des valeurs. Son œuvre fondamentale, la phénoménologie de l'esprit, est basée sur trois concepts majeurs que Hegel met au centre de sa démarche. Geist, esprit, Geschichte, histoire, et philosophie. Quand Hegel, en 1818, obtint la chaire de philosophie à Berlin, il vit bien la chance stratégique que cela lui offrait de pouvoir donner à sa philosophie un maximum d'attention publique. Avec sa double conception d'une philosophie se faisant histoire et d'une histoire se faisant philosophie, les deux en tant qu'émanation de l'esprit dans le temps, Hegel n'imprima pas sa marque seulement à l'université de Berlin. Hegel, peu urbain et peu sociable, ne se fit pas d'amis à l'Académie, qui d'ailleurs ne lui ouvrit pas ses portes. Mais quand 3 ans avant sa mort en 1831, l'Académie décida sa réorganisation en 2 classes et créa la Philosophisch-Historische Klasse, le modèle s'imposa à quasiment toutes les académies d'Allemagne. Ainsi, sans le vouloir peut-être, l'Académie rendit hommage à Hegel. Mais il y a plus. Quand en France, en 1832, l'ancienne classe supprimée des sciences morales et politiques non seulement fut rétablie, mais reçut le statut d'académie, comme vous le savez bien, sa première section devint celle de philosophie et sa 5e, celle d'histoire générale et philosophique. Cette nouvelle prédominance de philosophie et d'histoire philosophique n'était-elle pas un effet lointain de la philosophie de Hegel ? Cette interrogation est d'autant plus légitime que Victor Cousin, ami de Guizot et son conseiller pour le rétablissement des sciences morales et politiques, était en relation amicale avec Hegel depuis qu'il l'avait rencontré en 1817 à Heidelberg et qu'il avait été le premier à présenter la philosophie de Hegel en France. Cousin, en effet, dès sa création, présida la section de philosophie de la nouvelle Académie des sciences morales et politiques. Du Geist de Hegel naquirent le Volksgeist et surtout le Deutscher Geist, le Zeitgeist et bien d'autres Geister encore. On voudrait dire avec le Zauberlehrling, l'apprenti sorcier de Goethe, « Die ich rief, die Geister, werde ich nicht mehr los ». Les esprits que j'appelais, je ne peux plus m'en débarrasser. Mais qu'en est-il des Geisteswissenschaften qui ont fait fortune dans l'Allemagne post-hegelienne ? Du Geist de Hegel aux Geisteswissenschaften, le chemin est tortueux. Hegel lui-même n'aurait jamais pensé à un concept pareil. Pour lui, le Geist même, dans sa phénoménalité, était déjà science, Wissenschaft, et se prêtait mal à en être l'objet. Le premier à avancer les Geisteswissenschaften au pluriel fut un traducteur vaguement hegelien du System of Logic, Ratiocinative and Inductive du philosophe et économe John Stuart Mill, que Jean-Claude Casanova a déjà présenté dans cette académie, tout récemment. Dans sa traduction allemande de 1849, Jacob Scheel rend le titre du livre 6 « On the Logic of Moral Sciences » de la logique des sciences morales par « Von der Logik der Geisteswissenschaften oder moralischen Wissenschaften » de la logique des Geisteswissenschaften ou bien des sciences morales. Les Geisteswissenschaften ici équivalent aux sciences morales, aux moralischen Wissenschaften. Wilhelm Dilthey, théologue protestant et philosophe sur la chaire de Hegel à l'Université de Berlin, se trouve dans cette tradition avec son essai de 1875 de l'étude de l'histoire des sciences de l'homme, de la société et de l'État, sans toutefois se servir du concept des Geisteswissenschaften. Par contre, il parle avec une claire référence aux sciences morales et politiques françaises de moralisch-politische Wissenschaften, sciences morales et politiques. Cependant, dans sa Einleitung in die Geisteswissenschaften, introduction aux Geisteswissenschaften de 1883, le mot revient avec éclat. La fortune du mot date de cet essai de mise au point. Par Geisteswissenschaften, sciences de l'esprit, Dilthey comprend, je le cite, l'ensemble des sciences qui ont pour objet la réalité historique et sociale. Dilthey, contrairement à Hegel, n'est pas un grand penseur, et surtout pas un penseur systématique, mais un penseur éclectique qui prend ses thèmes et ses inspirations philosophiques où il les trouve. Ainsi, il fonde ses Geisteswissenschaften sur une base philosophique qu'il appelle Lebensphilosophie, philosophie de la vie, avec laquelle il s'approche assez de la philosophie de Bergson. Il y a deux voies qui partent de Diltai. D'un côté, il prépare une sorte d'essentialisme nationaliste, le Geist des Geisteswissenschaften se rétrécissant de plus en plus au Geist allemand, au Deutscher Geist. Les Geisteswissenschaften qui, malgré l'attention que le monde intellectuel leur portait, n'ont jamais bénéficié d'une reconnaissance institutionnelle, ni dans l'académie, ni dans l'université, sont néanmoins devenus une sorte de cheval de Troie pour ouvrir l'université aux idéologies nationales-socialistes. Mais le même Diltai, avec sa Lebensphilosophie, découvrit la pensée des moralistes français et surtout celle de Montaigne. Dans un essai de grande synthèse entre Geisteswissenschaften et Lebensphilosophie, intitulé « Das Wesen der Philosophie »,« L'essence de la philosophie », bon, c'est un titre un peu trop large, de 1907, Diltai traite des formes entre philosophie et art de conduire sa vie, littérature et poésie, et parle d'une strate intermédiaire entre une philosophie systématique et, je cite, une manière plus subjective, moins formelle de résoudre les énigmes de la vie et du monde. Le premier grand exemple de cette forme intermédiaire d'une philosophie de la vie sont les essais de Montaigne. L'art de l'expérience de la vie et de la conduite de la vie à l'époque de la Renaissance a généré comme fleur la plus fine les essais de Montaigne. Ici, Diltai rejoint le philosophe allemand qui, après Hegel, a certainement eu la plus grande résonance en Europe. Friedrich Nietzsche, grand amateur lui aussi de Montaigne. Ici, je dois citer Nietzsche qui dit, je le traduis tout de suite, « Quand tel homme est écrit, a vraiment augmenté le bonheur de vivre sur terre. » Donc, c'est vraiment très fort. Friedrich Nietzsche, grand amateur, lui aussi de Montaigne. Nietzsche, en effet, plus encore que Diltai, est fasciné par les moralistes français, non pas par ceux qui prêchent la morale, qui la réfléchissent, mais par ceux qui l'analysent et qu'on pourrait appeler les artistes d'une anthropologie négative. Nietzsche, en dehors de toute institution académique, se crée sa science morale à lui, science où analyse et art littéraire, tant admirés des moralistes, coïncident. Dans sa voie vers une nouvelle science morale, Nietzsche suit surtout le grand critique littéraire Sainte-Beuve, qu'il a quelquefois dénigré, mais qui a largement inspiré sa conception de science morale comme art de la pénétration de l'âme humaine avec ses vices cachés, ses intérêts et sa volonté au pouvoir. La nouvelle science de la morale de Nietzsche est celle de Montaigne, de La Rochefoucauld, de La Bruyère, de Chamfort et de Stendhal. De tous ces écrivains moralistes, il admire une élégance, une finesse, une urbanité d'écriture qui, selon lui, ne se retrouve que chez les meilleurs écrivains de l'Antiquité grecque. Nietzsche a aussi forgé un nom pour marquer une communauté de style, d'écriture et de regard désabusé sur l'homme, celui de moralistique, dit moralistique, terme devenu courant dans l'histoire littéraire allemande. Nietzsche et Diltai ont ouvert une nouvelle voie vers les écrivains français qui, en dehors d'une science morale dominée par la religion ou par la morale philosophique, dans la tradition d'Aristote et de Cicéron, ont créé ce qu'on pourrait justement nommer une sorte d'anthropologie négative qui demande, plutôt que de poser en affirmation ce que c'est que l'homme. Dans cette perspective, Montaigne prend une place éminente. L'intérêt porté vers Montaigne sera repris par un des disciples les plus fidèles de Diltaï, au nom de Bernard Grotheusen, bien connu en France. En effet, c'est Diltaï qui a initié Bernard Grotheusen à la pensée française et l'a familiarisé avec Montaigne. Grotheusen, un des éditeurs de l'œuvre dispersée de Diltaï, devait devenir un des grands médiateurs entre la France et l'Allemagne, vrai passeur entre les cultures. Comme collaborateur à l'édition critique de Leibniz, préparée à l'Académie de Berlin, Grotheusen se trouvait à Paris au moment où la Première Guerre mondiale éclata et il fut interné en France jusqu'à la fin de la guerre. Il profita de ce séjour involontairement prolongé en France pour perfectionner son français et pour se familiariser davantage avec le monde intellectuel français. Entre les deux guerres, il mena une existence double comme Privatdozent à l'Université de Berlin et collaborateur à l'édition de Leibniz de l'Académie et comme homme de lettres dans le milieu parisien. Sa grande monographie « Origine de l'esprit bourgeois en France », écrite d'abord en français, fut publiée en 1927 comme un des premiers volumes de la collection des idées chez Gallimard qu'il avait créé avec son ami Jean Poulain. Sa traduction d'ailleurs apparut la même année dans la collection « Philosophie und Geisteswissenschaften ». Philosophie et sciences de l'esprit et Geisteswissenschaften, dirigé par Georg Misch, le gendre de Diltaï. À Berlin, Grotheusen était surtout en relation amicale avec un romaniste, Eduard Wechsler, qui, en 1927, l'année même de la sortie de l'édition française de l'Origine de l'esprit, avait sorti un livre sous le titre « Esprit und Geist ». Dans la pire tradition des Geisteswissenschaften. Wechsler y oppose, dans une sorte de fantaisie essentialiste et anti-française, les clichés les plus éculés sur la profondeur du Geist allemand et la légèreté de l'esprit français. Dans sa Festschrift de 1929, Grotheusen lui-même a publié son essai « La vision du monde de Montaigne ». Tandis que la plus grande partie des contributions à cette Festschrift pour Wechsler insiste dans le sens des thèses de Wechsler sur la différence fondamentale entre esprit français et Geist allemand, Grotheusen voit français et allemand compatriotes d'un même monde moderne. De même, son anthropologie philosophique de 1931 se termine avec le portrait de Montaigne au seuil de notre modernité. Ce manque de ferveur nationaliste, cependant, n'a pas empêché Wechsler de s'engager pour Grotheusen. Ce sont quelquefois des réactions illogiques, n'est-ce pas, qui arrivent dans la vie. Ce même Wechsler, qui a écrit ce livre tout à fait détestable, est oublié à juste titre. Ça ne l'a donc pas empêché de s'engager pour Grotheusen en le proposant d'abord pour un poste payé de lecteur, puis pour un extraordinariat en philosophie éthique qui lui laissait toute liberté de passer la plus grande partie de son temps à Paris. Quand en Allemagne, le national-socialisme prit le pouvoir, il s'installa définitivement à Paris et prit la nationalité française en 1937. Mais revenons encore un moment à la scène berlinoise. Wechsler avait un jeune assistant, le Suisse Gerhard Hess, futur président de la Deutsche Forschungsgemeinschaft et fondateur de l'Université de Constance, pour qui Grotheusen était, comme il l'écrit lui-même dans sa notice nécrologique, un ami paternel. Il est très probable que c'est lui qui lui avait suggéré le titre de sa thèse de doctorat Alain, Émile Chartier, dans la série des moralistes français. Or, cette dissertation, parue en 1932, non seulement devint le point de départ de ses recherches sur les moralistes français, en particulier sur La Rochefoucauld et La Bruyère, mais il se forma autour de lui un cercle d'amis romanistes qui, soit dans la perspective de Dilthey, soit dans la perspective de Nietzsche, et surtout en opposition silencieuse aux Geisteswissenschaften officielles de l'idéologie nationale-socialiste, qui s'était emparée de l'université, se vouaient à l'étude des moralistes. Il en résulta l'anthologie en deux volumes des moralistes français de Fritz Schalk, professeur à l'université de Cologne, publiée en 1938 et 1939, qui encore aujourd'hui fait autorité par la pertinence du choix, l'élégance de la traduction et une introduction brillante. Le troisième, qu'il faut surtout nommer ici, est Hugo Friedrich, professeur à l'université de Fribourg, et auteur d'une monographie sur Montaigne, écrite en grande partie en France, où, pendant 8 mois, il fut prisonnier de guerre immédiatement après la fin du Reich. Ce livre, dans la longue tradition de l'occupation allemande avec Montaigne, ce livre, donc, sur Montaigne, est resté une des plus belles études sur Montaigne, point culminant dans une longue série d'approches allemandes à cet auteur inégalable et grand moraliste. Le fait qu'en Allemagne, il n'y ait ni académie, ni classe de sciences morales et politiques, et que les sciences morales et politiques n'aient pas trouvé leur équivalent dans les Geisteswissenschaften, n'exclut pas que des personnalités individuelles se soient fait un nom dans ce domaine. Il faudrait nommer Carl Schmitt, que Georges-Henri Soutou nous a souverainement présenté l'année dernière. Schmitt, tête brillante, avec de larges vues géopolitiques, mais profondément compromis par son adhésion à l'idéologie nationale-socialiste. Je citerai aussi Hannah Arendt, chassée comme tant d'autres de mon pays dans ces années sombres, où des juristes comme Carl Schmitt occupaient le devant de la scène. Aux États-Unis, elle est devenue une grande voix des sciences morales et politiques internationales. Un troisième nom serait celui de Jürgen Habermas, que je vois dans la grande ligne des Lumières et des sciences morales et politiques françaises. Mais je vois aussi, au moins dans l'Académie de Heidelberg, dont je suis membre, que les relations entre morale et politique s'imposent de plus en plus à l'attention interdisciplinaire. La formule de Condorcet des sciences morales et politiques est plus que jamais d'une actualité brûlante. Ce patrimoine des Lumières françaises restera un patrimoine que la France a légué à l'humanité. Je vous remercie de votre attention.